L'idée, ce serait de vous parler de qu'est-ce qu'une juste division du travail. Déjà, le mot juste et la notion de justice sont assez redoutables, au point que, en général, c'est une notion qui est proscrite des facultés de droit. C'est considéré comme le mot qu'il faut surtout éviter dans les facultés de droit. Ce qui explique d'ailleurs que les grandes théories de la justice qui ont pu être élaborées dans le dernier demi-siècle, qui ont été le fait de philosophes ou d'économistes, mais pas de juristes. De fait, le droit ne s'identifie pas au juste, mais il ne peut pas en être détaché tout à fait. Pour situer sa position, je pourrais évoquer ici un rêve qui est raconté par un des premiers romanistes médiévaux, Placentin. Il s'était fâché avec ses collègues à Bologne, il est venu s'installer à Montpellier, et il raconte un rêve qu'il a fait, enfin, l'a-t-il fait vraiment, on ne sait pas. C'est au début d'un traité sur les questions juridiques délicates, et il commence en disant qu'il a rêvé qu'il se promenait la nuit, alors c'était pas dans, non, de jour, ce n'était pas à Cerisy, ça aurait pu être dans le parc de Cerisy, et il découvre le temple de la justice. Et la justice est une déesse superbe, entourée des vertus civiques, et elle est séparée du spectateur par une paroi de verre. Et elle porte sur ses genoux sa fille Équité. Et sur cette paroi de verre, il y a écrit le texte du Corpus Iuris Civilis. Mais la fille Équité, dès qu'elle voit qu'un mot ne va plus, n'est plus en accord avec l'idée de justice, pointe son doigt, et il y a là les juristes qui effacent, qui réécrivent, etc. Et le public est de l'autre côté de la paroi. Alors ce rêve de Placentin nous situe assez bien la position moyenne qui est celle du droit, s'inscrive dans la lettre du droit une certaine représentation à un certain moment d'un ordre juste, mais qui est toujours l'objet de délibération, de réécriture, c'est-à-dire c'est le lieu de ce qu'on peut appeler, avec Simone Veil, puisqu'on va parler de Simone Veil, je vais préparer le terrain, ce qu'elle appelait une région moyenne, médiocre, disait-elle. C'est une région médiocre. Alors, ça c'est pour dire en deux mots rapport droit-justice. Justice sociale, comme je l'ai dit hier soir, à l'ouverture de notre discussion d'hier soir, c'est une notion dont les racines sont très anciennes. En fait, elle est déjà présente chez Aristote. Enfin, on la voit courir sur l'histoire longue. Mais en tant que telle, sous cette formulation, elle n'apparaît sur la scène du droit qu'en 1919, dans le préambule de la Constitution de l'OIT, tel qu'il est rédigé au moment du traité de Versailles. Et ce préambule, au fond, avance deux idées fondamentales. La première, qui sera répétée en 1944, c'est qu'il n'est pas de paix durable sans justice sociale. Ou pour le dire autrement, si vous laissez s'installer de trop grandes injustices, vous aurez la violence. Et ça sera répété dans la déclaration de Philadelphie en 1944. Et alors, ce n'est pas à n'importe quel moment que c'est dit, c'est à l'issue de massacres déments. Et on précise en 1944 que cet énoncé est le fruit de l'expérience, c'est-à-dire la justice sociale n'est pas une sorte de rêve irénique, une histoire pour des premières communiantes ou des bonnes sœurs en mal d'idéal. C'est le fruit de l'expérience historique qui montre que si on laisse installer de trop grandes injustices, nous aurons la guerre, nous aurons la violence. Ça, c'est la première chose qu'il y a dans ce préambule. L'autre, c'est pour assurer cette justice, il faut instaurer les conditions d'un régime de travail réellement humain. Alors, je l'ai indiqué hier, cette notion apparaît dans la version française, la version anglaise parle simplement de conditions de travail réellement humain, c'est-à-dire c'est sur un mode moins ambitieux. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous allons être... Aujourd'hui, nous sommes presque obligés de revenir à la version ambitieuse qui était dans la version française du préambule, qui est toujours d'ailleurs. En effet, la version ambitieuse, c'est le travail qui doit être réellement humain, ce qui nous amène à nous demander de façon très liminaire, mais ça va être le sujet de toute la semaine de travaux, qu'est-ce qu'un travail réellement humain? On peut le définir par opposition à ce qui est inhumain. Alors, ce qui est inhumain, c'est de traiter l'être humain comme un animal ou comme une machine, c'est-à-dire de dénier en lui la part spirituelle de représentation, sa capacité de représentation. À mon sens, il y a une autre forme d'inhumanisation du travail qui est portée par nos nouveaux outils, qui est de couper du réel. On peut penser que enfermer un travailleur dans les boucles spéculatives d'une représentation chiffrée du monde, totalement coupée de toute expérience du réel, c'est aussi une forme de déshumanisation qui a d'ailleurs donné lieu à l'apparition de risques nouveaux qui étaient ignorés du monde industriel, qu'on voit, on peut dater avec le droit, ça apparaît dans les années 90, les risques d'atteinte à la santé mentale. Donc on a deux sortes de bornes entre lesquelles on peut situer ce qui est un travail réellement humain. L'interprétation qui a été faite dans l'entre-deux-guerres de cette notion, c'est l'interprétation faible, c'est-à-dire ce qui doit être humain, c'est les conditions de réalisation du travail. Alors, on peut dire que ça implique trois choses. Il faut en sortir vivant, donc il ne faut pas y laisser sa peau, donc c'est un impératif de sécurité physique au travail. Deuxième chose, il faut limiter le temps de travail. La technique permet de faire travailler 24 heures sur 24. Il faut accorder l'exigence de travail avec les capacités physiques. Et puis troisième chose, il faut donner un minimum de salaire pour permettre aux gens de survivre. Autrement dit, la justice sociale ainsi entendue s'identifie à des échanges de quantité, quantité d'argent contre quantité de temps. Le travail lui-même est ramené à une quantité, c'est le triomphe du travail abstrait tel que défini par Marx et le refoulement en revanche du travail concret au sens de la diversité des arts mécaniques que nous avons évoqués très rapidement hier soir. Là aussi, on a des raisons de penser qu'aujourd'hui nous devons revisiter cette notion de travail abstrait, revenir à une appréhension du travail concret, et une des sessions d'ailleurs de notre semaine porte là-dessus. Mais on a donc eu une réduction, si vous voulez, du périmètre de la justice sociale à une question de répartition de quantité, autrement dit une question d'avoir. La justice sociale a été entendue comme une question de justice distributive. Et ceci a été le cas aussi bien en terre capitaliste qu'en terre communiste. Car on a considéré dans les deux cas que l'organisation du travail lui-même, le sens du travail, la façon de le concevoir et de l'organiser, ne relevait pas de la justice, mais relevait de la technique et de la science. Et cette science, c'était le taylorisme qui en a fourni les clés à l'organisation scientifique du travail. Si c'est une science, ça ne relève plus d'un débat en termes de justice, et les idéaux tayloriens étaient, vous le savez, partagés par Lénine, qui envisageait d'organiser l'Union soviétique tout entière sur ce modèle. Alors, dans cette perspective, l'État social, comme vous le savez, s'est construit de façon à assurer ces conditions humaines de travail. Il s'est construit sur trois piliers partout, sous des formes très diverses, parce que ça c'est essentiellement une construction nationale, mais avec partout trois piliers qui sont la sécurité sociale, le droit du travail et les services publics. Au plan, la justice sociale se posait aussi au plan international de justice entre les nations. Et c'est surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale que cette question est apparue. La déclaration de Philadelphie ambitionnait d'indexer l'organisation du commerce international sur les progrès de la justice sociale. L'idée étant de dire la bonne organisation du commerce international, c'est celle qui permet au plus grand nombre, dans le plus grand nombre de pays, de voir leur situation s'améliorer. Donc c'est la justice sociale qui est le critère d'évaluation qui doit nous permettre de réviser, le cas échéant, les règles du commerce. Et on avait envisagé en 1947, dans un traité qui a été signé à La Havane, le traité de La Havane, d'organiser à l'échelle du monde une solidarité entre pays riches et pauvres, disons globalement, pour assurer le développement que les pays les plus riches, les plus industrialisés, concourent au développement des pays les moins riches. Alors, la Charte de La Havane prévoyait une organisation internationale du commerce, dont, par exemple, l'une des tâches aurait été de veiller à la stabilité des cours des produits des pays du Sud, de façon à assurer les conditions d'un travail décent pour les paysans qui produisent, par exemple, le cacao en Côte d'Ivoire, ou le coton au Mali, pour prendre ces exemples. Cette volonté a été un échec. Les États-Unis d'abord, les pays européens ensuite, n'ont finalement pas ratifié la Charte de La Havane. Et l'Organisation internationale du travail, je ne parle pas là de l'OIT, de l'institution, mais le mode d'organisation, la Division internationale du travail, a été dessinée d'une toute autre manière dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, c'est-à-dire sur le mode plutôt d'une mise en compétition de tous les pays les uns avec les autres, par application de ce qui est attribué à Ricardo. Chaque pays est considéré comme une entreprise qui doit se concentrer sur son métier principal pour améliorer son avantage compétitif. Alors jusqu'aux années 70, on voit les pays du Sud qui continuent de réclamer plutôt une organisation fondée sur la solidarité. Et puis il y a conversion des plus grands de ces pays à la seule voie qu'on leur offre, qui est celle de la compétition. Et on leur offre, parce que les pays du Nord pensent à l'époque, et là vous allez voir qu'on c'est des vieilles pensées, que eux ils ont le cerveau et que les autres sont les pieds. Bon, dans la théorie des Varna, dont je redirai un petit mot tout à l'heure, et que cette compétition va conduire à ce que les tâches d'exécution seront faites au Sud et les tâches de conception seront faites au Nord. Donc les grands pays émergents s'engagent dans cette voie et elles jouent les cartes dont elles disposent. Et les cartes dont elles disposent, c'est des ressources naturelles abondantes qu'on va donc surexploiter et des ressources humaines abondantes qu'on va donc également surexploiter. Donc la surexploitation des ressources humaines et des ressources naturelles devient l'avantage comparatif premier des pays qui sont capables d'en assurer l'exploitation systématique dans des conditions qui sont plus ou moins démocratique. Dans le cas de l'Inde, par exemple, c'est une grande démocratie. Dans le cas de la Chine, ce n'est pas le cas. Mais dans les deux cas, on a le même type de politique. Les pays les plus faibles, je pense en particulier aux pays africains, ne parviennent pas à s'affirmer sur cette scène et ils deviennent l'objet de toutes les prédations. Et leur jeunesse n'ayant plus d'avenir sur place, lorsqu'elle n'a plus cet avenir sur place, ne voit plus d'avenir que dans la migration. Donc ce que je vous dépeins là, c'est un peu le tableau de la situation actuelle et donc de la régression des ambitions de la justice sociale au plan international, mais qui s'est aussi entraînée, accompagnée d'une régression au plan interne avec la remise en cause de ce que l'un des théoriciens les plus remarquables du néolibéralisme, qui est Friedrich Hayek. Il est remarquable parce que c'est un homme qui a une vraie culture juridique, à la différence de beaucoup d'économistes dont il faut bien dire que la conception du droit et des institutions est assez rustique. Hayek, quand il parle du droit, il a la culture juridique. et il est particulièrement radical, et c'est lui qui dénonce la justice sociale comme un mirage, en disant que l'avenir, c'est celui de la catalaxie, c'est-à-dire l'avenir, c'est celui de la globalisation, donc d'un globe peuplé tout entier d'individus, calculant en temps réel la maximisation de leurs utilités, et c'est cet ajustement par le calcul des utilités individuelles qui doit fournir ce qu'il appelle la grande société. Il décrit la solidarité comme un reste, un atavisme des âges anciens qui est appelé à disparaître. Donc la période dans laquelle nous vivons depuis une trentaine d'années est celle d'un déclin de l'idée de justice sociale au sens de justice redistributive, déclin qui a été suivi, accompagné par toute une partie de la gauche politique qui a considéré que la priorité, c'était d'augmenter la production, la croissance, et qu'on ne pouvait pas en parler répartition qu'une fois ce premier objectif atteint. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, un déplacement du référentiel, si vous voulez, les référentiels en termes de justice juridique se sont transformés en référentiels de type économique avec les grands indicateurs, taux de chômage, PIB, qui sont devenus les véritables boussoles de l'action publique et donc référés à une notion d'efficacité et non plus à une notion de justice. Alors, les thèmes de la justice sociale se sont dès lors déplacés et ce qui a émergé au fur et à mesure que déclinait l'idée de justice redistributive, donc d'une justice en termes d'avoir, ce qui a été promu, c'est des revendications de ce qu'on peut appeler une justice recognitive qui cherche à faire reconnaître l'égale identité des cultures, des genres, etc. Et ce courant, c'est très frappant de voir à quel point il prend son essor dans un mouvement parallèle avec la régression d'idées de justice rétributive. Ces revendications, c'est ce qu'on a appelé les luttes pour la reconnaissance. Là, je me réfère évidemment au travail de Axel Honneth. Bon, c'est les travaux de Ricoeur aussi sur la reconnaissance. Bon, je suis très bref parce que je suppose tout ça très connu de vous. Le droit issu des grandes révolutions bourgeoises envisage l'être humain comme un être absolument abstrait, sans racine, comme pur sujet de raison. Et la revendication va consister à dire « mais nous sommes dans une position qui est liée au fait que nous sommes des femmes et donc en tant que femmes nous ne sommes pas ». C'est un mensonge de dire que nous sommes traités comme les hommes, donc il faut prendre en considération notre condition de femme. Où nous sommes noirs, il faut prendre en considération notre condition de noir. Où nous sommes homosexuels, il faut prendre en considération notre condition d'homosexuel. Et on a eu ainsi une série de revendications fondées sur la reconnaissance d'identités distinctes. Alors, ces courants de la justice recognitive, ce n'est pas vraiment mon sujet, mais enfin, c'est l'arrière-plan. On peut en distinguer deux branches à grands traits, hein. Il y a la branche multiculti, si je puis dire, c'est-à-dire hormis un ensemble de droits et de devoirs vraiment basiques, il faut laisser chaque communauté s'organiser en fonction de ses propres références identitaires. Ce sont des choses qui ont été théorisées notamment par Charles Taylor au Canada. Ces revendications s'accompagnent au plan international par une remontée aussi des revendications national. On le voit aujourd'hui, y compris à l'intérieur même de l'Europe, la réaffirmation des identités nationales face au projet fédératif. Et puis face à cette interprétation de la justice recognitive en termes multiculturels, vous avez, on pourrait dire, une interprétation libertarienne qui est celle de la flexibilité générale des identités qui vise à ce qu'on puisse à tout moment redéfinir sa propre identité soi-même. Bon. C'est la version libertarienne. En réalité, les deux versants de la critique de la justice sociale et de la promotion de la justice recognitive, je l'ai dit, vont de pair, parce que dans les deux cas, il s'agit d'aboutir à une flexibilité généralisée de l'état des personnes, qu'il s'agisse de leur état économique ou de leur état civil. Ce qui s'est passé, c'est plutôt une division du travail. La droite s'est employée à démanteler l'état économique au nom du mirage de la justice sociale, et la gauche s'étant alignée plus ou moins politiques économiques du libéralisme, a cherché à maintenir son identité dans des surenchères, dans les revendications identitaires. Alors, j'ai des exemples très concrets pour vous dire, je ne parle pas simplement comme ça, comme juriste. Si vous prenez, par exemple, depuis 1995 à 2017, la liste des discriminations prohibées par le droit du travail, c'est-à-dire la prise en considération des revendications identitaires, elle a été modifiée à 15 reprises. C'est à l'article 1132.1 du Code du travail français. Environ tous les deux ans, vous avez une nouvelle considération qui apparaît, l'interdiction de prendre en compte l'apparence physique, le genre, la capacité de s'exprimer dans une langue, la domiciliation bancaire, le lieu de résidence, l'orientation sexuelle. On a eu une liste qui ne cesse de s'allonger d'année après année, en disant ça, il faut assurer une égale reconnaissance. Et dans le même temps, on a eu une fragmentation du statut salarial et des inégalités économiques croissantes sur le marché du travail. Alors, j'arrête là-dessus, mais c'était pour vous donner un petit peu ce cadre général, qui est celui d'un refoulement d'une justice sociale fondée sur la répartition des avoirs, d'une promotion de revendications fondées sur la reconnaissance de l'être. Et ce qui reste refoulé dans les deux cas de figure, c'est l'idée justement d'une juste division du travail, c'est-à-dire, on oublie que sur la scène juridique, il n'y a pas que l'être et l'avoir, il y a aussi l'agir. C'est dans la tripartition du droit romain, il y a les personnes, les choses, l'action. Alors on peut dire que la justice sociale est entendue en termes de répartition des choses, reconnaissance des personnes. La troisième dimension, c'est celle de l'action, celle du travail en tant que part de l'activité humaine qui, à la différence du jeu, alors je donne une définition du travail parce qu'on pourra en discuter, mais c'est cette part de l'activité humaine qui, à la différence du jeu, n'est pas à elle-même sa propre fin, car elle vise à faire œuvre utile, c'est-à-dire à produire des biens et des services propres à satisfaire les besoins matériels ou symboliques des hommes. Si nous sommes d'accord sur cette définition, l'idée de fin du travail est un non-sens, parce que les besoins matériels et symboliques des hommes sont illimités. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une fin au travail. Cette dimension de l'activité humaine suppose une collaboration entre les hommes qui, à des degrés divers, selon les âges et les civilisations, dépendent tous du travail d'autrui. C'est Freud qui fait cette remarque en disant qu'en toute civilisation, nous vivons sous l'égide de Eros et Ananke, le besoin de l'autre sexe et puis le besoin tout court, matériel. Et la division du travail entre les sexes, les générations et les groupes sociaux a de tout temps constitué l'une des bases de l'organisation des sociétés. Alors, raisonner en termes de juste division du travail, il y a peu de textes où cette notion apparaît clairement. Au plan international, il y en a au moins un, ça ne va pas vous étonner, je cite à nouveau la déclaration de Philadelphie, parce que ça apparaît à ce moment-là, sans lendemain, mais c'est un texte qui reste quand même. Dans la déclaration de Philadelphie de 1944, on lit ceci: « Chacun doit avoir la satisfaction de donner toute la mesure de son habileté et de ses connaissances et de contribuer au bien-être commun. » Donc là, on a quelque chose qui ne s'attache pas simplement au montant des salaires, à la durée du travail, mais au contenu même de la tâche, où on doit avoir donné la satisfaction de donner la mesure de son habileté, de ses connaissances et de contribuer au bien-être commun. Donc on retrouve ici cette définition proprement humaine du travail comme capacité propre à l'espèce de faire advenir du neuf dans le monde à partir de ses propres représentations mentales. Et il y a donc dans la déclaration l'idée que un travail réellement humain, c'est celui qui donne à chacun cette possibilité. D'où la nécessité de revisiter aujourd'hui la question, cette question de la juste division du travail. Alors, c'est une vieille question. C'est une très vieille question. Pour nous autres juristes, alors quand à nos étudiants de première année, quand on veut leur parler l'Abraham de l'histoire du droit, si je puis dire, c'est Solon, par exemple. Eh bien, Solon, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un poète d'abord, comme le dit Vico, les premiers juristes étaient des poètes. C'est un poète, mais c'est aussi quelqu'un à qui on fait appel parce que Athènes est menacée par la guerre civile. C'est menacé par la guerre civile parce qu'il y a un tout petit nombre de riches qui se sont accaparés toutes les richesses, qui réduisent les pauvres en esclavage ou à l'exil. Alors, la cité est menacée d'explosion. On fait appel à Solon, nomothète, c'est-à-dire on lui demande « fais-nous de bonnes lois ». Bon. Et Solon, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend deux ou trois mesures. La première qui devrait nous donner à penser en ces temps de dette publique, c'est d'introduire une remise générale des dettes. Alors, la seisachtheia, c'est comme je prononce très mal, certainement, alléger le fardeau. Donc, remise des dettes, on libère ceux qui ont été mis en esclavage pour dette, on fait revenir ceux qui se sont exilés pour échapper à leurs créanciers. Et au centre de la politique de Solon, il y a le fait de permettre à tout citoyen libre, alors je ne parle pas des esclaves, hein, nous sommes dans le... de vivre de son travail. Donc il y a une revalorisation du travail et d'un travail indépendant. Cette question, elle n'est pas présente que chez Solon, mais on peut dire que, pour essayer d'ordonner la discussion, la question de la juste division du travail présente deux facettes complémentaires, mais qu'on peut, pour des raisons de méthode, essayer de distinguer. La première de ces facettes, c'est celle de la répartition des tâches. Il y a des choses à faire. Qui va faire quoi? Qui va nettoyer les chiottes? Qui va faire le menu? Qui va faire la cuisine? Qui va faire le programme du colloque? C'est cette question de la répartition des tâches. L'autre question, c'est celle de la conception des tâches. Alors, je vais y venir après, parce que c'est le deuxième volet de la question, est un peu affecté par la révolution informatique. Première question, donc, c'est celle de la répartition des tâches. Grosso modo, si on prend des grands systèmes normatifs, on s'aperçoit qu'il y a eu deux façons de concevoir cette répartition. La première, c'est de la concevoir comme un ordre hiérarchique, souvent sur le modèle organiciste de l'organe, il y a la tête, les pieds, les cuisses, les bras, etc. C'est présent chez Platon, par exemple. Il y a un passage chez Platon qui dit qu'il faut éviter les touches à couteau. Chacun doit se concentrer sur ce qu'il sait faire, qu'une société bien ordonnée, c'est celle où chacun est assigné à la tâche qu'il est le plus propre d'accomplir. On retrouve des traces aussi en droit romain, avec le colonna, par exemple, où le fait, vous aviez à Rome cette institution, vous héritiez d'une boulangerie, ben vous étiez obligé de rester boulanger, vous étiez attaché à votre fonds. On a des mécanismes comme ça en droit contemporain, hein, avec la transmission du contrat de travail lors de la cession de l'entreprise, ça fait penser au colonna, à certains égards. Bon. Un exemple massif de cette conception de l'ordre hiérarchique, alors je ne l'évoque ici que très brièvement parce qu'il y a des gens infiniment plus compétents que moi dans cette salle, c'est la théorie des Varnas dans l'Inde. Bon, est-ce, ça vous est familier, c'est plus ou moins, j'ose à peine en parler. Non, bon, on distingue caste et Varna. Bon, la caste étant liée à la naissance, Jati, ça se prononce, je crois, c'est ça. Et les varnas, ça vient de couleur, c'est les grandes fonctions qui doivent être accomplies dans la cité. Et l'idée de l'ordre hiérarchique, tel que l'étudie par exemple Louis Dumont, c'est que le bon ordre suppose que chacun respecte la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire les brahmanes qui sont chargés du sacré, les rois, les marchands et les serviteurs. Et puis il y a ceux qui n'ont pas leur place là-dedans, et qui malheureusement, c'est les dalits. Bon. Et une société bien ordonnée, c'est une société où vous naissez dans un de ces varnas ou d'autres, et bien vous allez accomplir de votre mieux la fonction que le destin vous a assignée. Donc on a une juste division du travail. Alors, l'ordre hiérarchique, c'est Dumont, et insiste à très juste titre, s'impose à tous, y compris à ceux qui sont en haut, et fait que tout le monde a une place. Alors, si je mets de côté les intouchables dont la place est... Et si je vous en parle, c'est pas pour faire de l'histoire, c'est que à l'origine de cette la plus grande démocratie contemporaine qu'est l'Inde, Gandhi entendait restaurer cette conception. Il pensait que c'était le seul moyen d'échapper à la compétition généralisée qui ne manquerait pas d'advenir si l'on adoptait la façon occidentale de concevoir la division du travail, c'est-à-dire qu'il y a des places et la compétition est ouverte pour occuper toutes les places. Et Gandhi écrit ceci, alors je vais retrouver ça, « Chacun de nous a des occupations qui lui sont propres. Ces occupations ne sont pas des castes, elles sont ce que l'hindouisme désigne sous le nom de Varna. Varna qui n'a rien de commun avec la caste telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les castes sont une institution humaine tout juste bonne à être détruite. Mais Varna est une loi divine. Nous pouvons la négliger et subir les conséquences de cette attitude, mais si nous l'observons, nous en tirerons profit. Un menuisier, un forgeron, un maçon, un balayeur, un professeur, un soldat ont chacun des occupations différentes, mais aucun d'eux n'est supérieur ou inférieur aux autres. Si nous commençons à empiéter les uns sur les autres, nous créons une confusion de tous les varnas. C'est pourquoi, dès que vous enlevez à la loi de Varna les cuisants sentiments d'infériorité qu'on y a mis, non seulement elle agit comme loi, mais encore elle fournit une occasion de faire ce pourquoi nous avons le plus d'aptitude. C'est platonicien d'un certain côté. Je parle sous le contrôle de Dominique Méda. Donc, vous voyez, Gandhi pense que c'est possible de sauver un peu les varnas en leur donnant un aspect démocratique. Il faudrait pour ça nettoyer de toute idée de jugement de valeur et d'hierarchie des valeurs la différenciation des fonctions. Cette voie est évidemment tout à fait différente de celle qui a été empruntée par dans les ordres égalitaires. Dans les sociétés ayant promu l'égalité civique, évidemment, le problème des hiérarchies professionnelles, la division du travail, posait un problème immense. Comment concilier l'égalité des citoyens, proclamée dans les textes, avec leur subordination dans l'organisation du travail? Comment s'en sortir? La voie préconisée par Rousseau, par Montesquieu ou par les pères fondateurs des États-Unis, c'était de créer un peuple de petits travailleurs indépendants. C'était pas Uber, hein, mais même si. Mais l'idéal, c'était un peuple de petits travailleurs indépendants. Ce qui, vous trouvez ça, par exemple, lisez projet de constitution pour la Corse de Rousseau. Rousseau dit « La Corse est merveilleuse, ça pourrait être comme une sorte de Suisse. » Enfin, vraiment, il ne connaissait pas les Corses. Hein. Parce que c'est vallonné, donc chacun aura sa petite ferme, le moins de villes possible. Et là, on a une démocratie qui est en même temps économique et politique. Chez Jefferson, par exemple, plaide jusqu'en les années 1818-19 que l'industrie reste en Angleterre. Parce que c'est le vice. Donc l'Amérique, ça va être nous allons être de solides et robustes agriculteurs indépendants. Et chacun fait dans son indépendance économique l'apprentissage de son métier de citoyen. Il y a le lien direct, et il y a une vision très profonde, et qui va être portée par le mouvement ouvrier américain au 19e, par notamment le mouvement des chevaliers du travail, ça s'appelle, qui, avec un débat très intéressant, bon, j'ai pas le temps de vous parler longuement, mais autour de la libération, la fin de l'esclavage, parce que certains disent, bon, maintenant, vous n'êtes plus esclave, vous pouvez vous vendre sur le marché du travail, donc vous êtes libre. Et les chevaliers du travail disent pas du tout. Le salariat est une autre forme de servitude. Donc il y a un débat sur la conception de la liberté. Est-ce que la liberté, c'est simplement pouvoir se vendre librement ou pas? Alors, la réponse du premier mouvement ouvrier américain consiste à dire non. Et l'équivalent de cela en Europe, c'est par exemple Proudhon. Et Proudhon, lui, avec le mutualisme, propose des formes de juste division du travail qui sont un peu différentes, parce qu'il a compris, Proudhon, qu'on ne pourrait pas échapper à des organisations regroupant un grand nombre de personnes et donc à une certaine hiérarchie dans l'organisation de son travail. Mais, dit-il, il faut faire en sorte que chacun, dans sa formation, occupe toutes les positions possibles dans cette organisation, et à commencer par les plus dégradantes. Bon, il faut que chacun ait eu l'expérience de toutes les positions dans une organisation de travail. C'est donc l'idéal, un autre idéal d'égalité économique. Alors nous sommes amenés aujourd'hui à nous poser la question donc que se posait déjà Simone Veil, des conditions de la bonne hiérarchie, parce que la réponse moderne à cette contradiction entre la hiérarchie économique et la citoyenneté politique, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est-à-dire l'égalité reportée en amont de l'organisation du travail, en disant, écoutez, on va vous donner une éducation, et ceux qui réussissent le mieux occuperont les meilleures positions. Bon. Christopher Lash, en particulier, critique cela. Il dit, au fond, l'égalité des chances, c'est un système de sélection des élites, et qui ne garantit pas à chacun le fait qu'il aura effectivement dans sa vie un travail réellement humain. C'est une échappatoire par rapport au problème de fond de la juste division du travail. En réalité, pour régler cette question, il faudrait, je cite Simone Veil, là, puisque vous avez bien compris que je préparais le... Il faut en finir, dit-elle, avec une organisation, et vous avez cette citation, une actualité particulière, c'est pour ça que je me suis permis de la... Une organisation qui divise l'humanité entre deux catégories, les personnes qui comptent pour quelque chose et les gens qui ne comptent pour rien. Fin de citation, ça c'est Simone Veil. Et, dit-elle, chacun doit pouvoir mettre en œuvre la faculté qu'aucun être humain normal ne peut laisser étouffer sans souffrir et se dégrader, initiative, responsabilité, compréhension de l'œuvre à accomplir et des méthodes à employer. Je trouve que ça situe très exactement la question de la juste division du travail, et ça implique un équilibre dans l'organisation de l'entreprise entre les facteurs de contraintes matérielles et techniques d'une part et les facteurs de besoins proprement humains de l'autre, ce qui impliquerait de repenser l'organisation de l'entreprise en sorte que chacune de ces deux considérations soit en permanence prise en compte. Alors ça, ce sont des sujets, je pense, dont on aura eu l'occasion de parler peut-être avec Isabelle Ferreras, et qui ont beaucoup animé le séminaire sur l'entreprise d'Olivier Favreau, etc. C'est-à-dire, comment peut-on repenser un modèle d'entreprise qui, justement, donne place à une juste division du travail. Ces questions... et je vais terminer là-dessus. J'ai dit qu'il y avait deux volets à la question de la division du travail. Là, je vous ai parlé de la répartition des tâches, comme si ces tâches étaient données une fois pour toutes. Mais on peut jouer aussi en amont sur la définition même des tâches. Et c'est sur ce plan, bien sûr, qu'intervient le progrès technique. Lorsque dans un système où il n'y a pas de d'outils capables de porter des masses lourdes, ce sont les êtres humains qui doivent les porter sur leurs épaules. À partir du moment où on a des machines, on peut alléger la peine des hommes. Autrement dit, la façon de répartir les tâches, les tâches disponibles, vont dépendre d'un certain état du machinisme et d'une certaine façon d'utiliser les machines. Car les machines, tout à la fois, peuvent libérer et asservir les hommes. Alors, ces grosses machines à vapeur, par exemple, ou électriques de l'ère industrielle, pouvaient libérer d'un certain nombre de tâches physiques, mais on a vu qu'elles asservissaient d'une autre manière, en assujettissant les êtres humains à des cadences qui étaient contraires au rythme même de leur vie biologique. Donc tout le problème à chaque moment de changement technique, c'est comment peut-on domestiquer nos machines, de même que nos ancêtres ont dû domestiquer, enfin, je ne sais pas s'ils ont domestiqué les mammouths, mais enfin il fallait faire avec les mammouths pour ne pas être détruits par eux, et si possible on pouvait en faire, je ne sais pas, ils devaient les manger quand même, il devait y avoir du saucisson de mammouth. Donc comment on peut avoir un bon usage de nos outils. Et chaque changement technique nous repose devant cette question, et c'est particulièrement vrai du grand changement technique que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire du passage de ce qu'était l'imaginaire industriel, qui était l'imaginaire de la physique classique, qui envisageait le travail simplement comme une force passive qui obéit à des impulsions. Donc c'est le modèle de l'engrenage que Chaplin donne à voir dans les temps modernes. Donc le travailleur décérébré, disons. Et nous passons maintenant à un autre univers. Et alors cet univers correspond juridiquement, je le dis pour les juristes dans la salle, à celui de la subordination. Hein. Les temps modernes sortent dans les salles à Paris l'année où la Cour de cassation définit le critère de la subordination juridique. Hein. Donc ça marche vraiment d'un même pas. Ce qui va caractériser la position du travailleur, c'est d'être obéissant et de ne pas réfléchir. Et puis, avec la révolution numérique, au contraire, l'imaginaire dominant aujourd'hui, c'est l'imaginaire cybernétique. Notre objet fétiche n'est plus l'horloge. On ne conçoit plus, comme la métrie, l'homme comme une montre, disait la métrie, mais plutôt comme un ordinateur. Vous avez vu, les partis politiques ont des logiciels, il leur arrive de se planter, mais donc vous avez tout ce vocabulaire du programme, et c'est la notion de programmation qui prend le relais de la notion de subordination. Et avec la programmation, nous retrouvons cette ambivalence. La programmation peut entraîner un enfoncement dans la déshumanisation, notamment si elle coupe l'être humain, justement, de toute expérience concrète à son travail, ou elle pourrait, au contraire, être le facteur d'une émancipation, d'un enrichissement du travail, c'est-à-dire d'une promotion d'un régime de travail réellement humain. Elles ont la chance de concentrer le travail sur sa part la plus poétique, la plus créatrice, et c'est certainement en ce sens qu'il faut aller. J'ajoute une dernière remarque pour éventuellement la discussion. La grande mutation de l'ère industrielle s'était accompagnée d'une grande mutation du régime du droit de la responsabilité. Avec l'invention de la responsabilité objective, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire peser sur ceux qui obéissaient le risque technique de l'explosion des machines, par exemple. Ce risque était imputé à celui qui tirait profit et qui était propriétaire des machines. Donc on a inventé la responsabilité objective pour faire face au problème de la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux problèmes, puisqu'avec les nouveaux outils, l'entreprise n'est plus conçue comme un ensemble clos sur lui-même, mais sous forme de réseau. Et sur ces réseaux, il y a autonomie de chaque acteur sur le réseau, et il donne la possibilité à celui qui contrôle le système d'exercer le pouvoir en se défaussant de ses responsabilités. Alors il y a de grandes catastrophes comme celle du Rana Plaza qui ont montré où pouvait conduire cette déconnexion du pouvoir économique et de la responsabilité dans des systèmes où les 1200 ouvrières qui ont été écrasées sous le béton dans cette entreprise de textile bengalaise payaient le prix, certes, de l'inconséquence et plus, enfin même du comportement criminel des dirigeants de l'entreprise, mais eux-mêmes étaient sous la pression des grandes multinationales qui imposaient ces prix. Donc vous avez maintenant, alors que dans l'entreprise classique, il y avait un point d'imputation de la responsabilité qui était le dirigeant clairement identifiable, nous ne sommes plus dans cet univers. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'idée d'organiser les entreprises comme des petites sociétés politiques capables de faire elles-mêmes chacune leur code du travail est tout à fait à côté de la plaque des formes actuelles d'organisation de l'économie qui se font justement sous forme de réseau. Mais il ne faut pas se laisser aller à la métaphore réseau-pyramide là, qui a été proposée par mon ami François Host, parce qu'elle tend à penser que nous serions dans un univers plat où plus personne n'exerce le contrôle et le pouvoir. En réalité, il y a une dimension pyramidale dans ces formes néo-féodales d'organisation de l'économie, car certains ont plus de pouvoir que d'autres. Et en dernier lieu, ce qui change, et là je me réfère à des choses qui ont été travaillées par Pierre Musso, ici présent dans cette salle, dans l'univers industriel, la clé de détention du pouvoir économique était la propriété matérielle, la propriété des choses. Aujourd'hui, c'est davantage la propriété immatérielle, c'est-à-dire la propriété de systèmes d'information. Et donc, nous sommes là face à un vaste champ de travaux pour les juristes, qui est comment faire évoluer le droit de la responsabilité dans un sens qui tienne compte de ce déplacement de la réalité des lieux du pouvoir économique. Voilà, j'ai dépassé à peine de 5 minutes. Merci de votre patience.